Un tournant historique est à l'œuvre.
On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible.
Our world is at the crossroads.
Le citoyen, il veut un avenir pour ses enfants et ses petits-enfants.
The eyes of all future generations are upon you.
40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent.
L'homme est en train de changer.
La première.
On vit peut-être un tournant là.
Déclic.
Le tournant.
Est-ce qu'on est déjà demain?
Arnaud Reusson.
Faut-il craindre la guerre nucléaire? Cette question revient de plus en plus dans les conversations ces derniers mois, depuis l'invasion russe en Ukraine. Elle revient même encore avec un peu plus d'acuité suite aux menaces ouvertement exprimées par Vladimir Poutine lors d'un discours le 21 septembre dernier. Alors, est-on dans un moment de tension particulièrement dangereux entre puissances nucléaires? Le tabou de l'utilisation de l'arme atomique pourrait-il être brisé? C'est ce que l'on va explorer dans cet épisode. Direction d'abord une pharmacie, dans la rue principale de Sombref, en province de Namur.
Bonjour, je venais pour une demande un peu particulière, je suis en fait journaliste.
J'ai envie de savoir si les derniers événements en Ukraine dopent la demande en capsules d'iode pour se prémunir d'une contamination radioactive en cas d'attaque atomique. Et la réponse de la pharmacienne en service ce jour-là est clairement oui.
Oui, dès le début, donc je dirais il y a 6 mois, au tout début, là directement, on a eu énormément de demandes et les gens voulaient plusieurs boîtes, mais il fallait bien leur expliquer que, ben voilà, en fonction, il y a certaines personnes à risque, en fonction du poids, et qu'avec une boîte, on avait assez pour la famille. Et encore à l'heure actuelle, on a souvent des personnes qui viennent aussi nous demander la validité des comprimés d'iode parce que, ben voilà, nous, par exemple, ceux qu'on a, ils ont été produits en 2010, mais ça ne périme pas.
Et récemment encore, ici, par exemple, le discours de Vladimir Poutine cette semaine, etc. Quand il se passe des choses comme ça, vous voyez la différence?
Oui, on voit la différence. En tout cas, là, j'ai eu encore une médecin aujourd'hui au téléphone qui m'a justement demandé, parce que ces comprimés dataient de 2010, s'ils étaient encore valables. Et oui, on a eu une deuxième personne aujourd'hui à l'officine. Et de manière générale, oui, je vais dire toutes les semaines, on a des personnes qui viennent se renseigner, en tout cas, sur les comprimés d'iode.
Au revoir.
Au revoir, un bon week-end.
Renseignements pris auprès d'autres pharmaciennes et pharmaciens ailleurs en Belgique. Le phénomène est général. La crainte d'une guerre nucléaire est considérablement renforcée depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Et lors des moments de plus vive tension ou lorsque les discours mobilisent concrètement la menace de l'arme atomique, les demandes de renseignements, les manifestations d'inquiétude, voire d'anxiété, se multiplient. Mais y a-t-il des raisons objectives de redouter ce risque nucléaire ? Jusqu'à quel point Vladimir Poutine mobilise-t-il cette menace? Est-ce rhétorique ou vraiment concret? Cela vaut la peine de commencer par réécouter ces mots précisément. C'était le 21 septembre dernier, le président de la Fédération de Russie prenait la parole à la télévision. Derrière son bureau, l'air martial, avec en arrière-plan un drapeau russe et un drapeau reprenant avec force dorure les symboles de l'Empire russe. Vladimir Poutine y annonçait la décision délicate et redoutée de mobiliser quelques 300 000 réservistes. Et il évoquait, avec des mots très clairs, la menace nucléaire en pointant du doigt l'Occident.
Même le chantage nucléaire est entré en jeu. Nous ne parlons pas seulement du bombardement de la centrale nucléaire de Zaporijjia encouragée par l'Occident, qui menace de déclencher une catastrophe nucléaire. Nous parlons aussi des déclarations de certains des hauts représentants des principaux pays de l'OTAN sur la possibilité et l'admissibilité de l'utilisation d'armes de destruction massive contre la Russie. En l'occurrence, les armes nucléaires. Je tiens à rappeler à ceux qui font de telles déclarations au sujet de la Russie que notre pays dispose également d'une grande variété d'armes de destruction et dans certains domaines plus modernes que celles des pays de l'OTAN. Et si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Ce n'est pas du bluff.
Et Vladimir Poutine prenait le soin de préciser également ceci.
Ceux qui essayent de nous faire chanter aujourd'hui avec des armes nucléaires doivent savoir que le vent peut tourner dans leur direction.
Alors comment comprendre cette rhétorique de Vladimir Poutine ? Reste-t-on dans la rhétorique presque classique de la dissuasion nucléaire ou bien est-on un cran plus loin ? Vladimir Poutine pourrait-il vraiment aller jusqu'à des frappes nucléaires en Ukraine ? Pour y voir clair, j'ai d'abord pris contact avec Isabelle Mandreau. Elle a longtemps été correspondante à Moscou pour le journal Le Monde, et là, elle a publié un livre avec Julien Théron intitulé « Poutine, la stratégie du désordre jusqu'à la guerre ». Et pour Isabelle Mandreau, les mots de Vladimir Poutine ne sont pas vraiment une surprise, ce serait même plutôt une redite.
Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine profère cette menace. Il l'a fait même depuis longtemps, puisque lors de l'annexion de la Crimée en 2014, il avait, a posteriori, dans un film qui est retracé de façon très grandiose cette annexion de la Crimée du point de vue russe, il avait déclaré qu'il avait mis en place des fauleurs, en tout cas qu'il avait fait comprendre aux Occidentaux que si jamais on l'empêchait de prendre le territoire de la Crimée, il n'aurait pas hésité à utiliser l'arme nucléaire. Donc, c'est pas la première fois, il agit depuis plusieurs années. Là, il revient à la charge puisqu'il est dans une période assez sensible pour lui. Un, son armée a essuyé des défaites sur le territoire ukrainien. Deux, ça correspond au moment où, justement, il lance les référendums d'annexion dans 4 régions en Ukraine, comme des référendums d'annexion, comme celui qui s'est produit en 2014 en Crimée. Donc, c'est encore un signal qui est envoyé à l'Occident en disant « je vais prendre ces territoires, je vais les annexer, comme la Crimée, et si vous m'en empêchez, eh bien je peux aller très très loin ».
Et effectivement, les similitudes sont troublantes. En 2014, souvenez-vous, un mouvement de contestation pro-européen avait rassemblé des centaines de milliers de personnes à Kiev, la capitale ukrainienne, place Maïdan. Le mouvement avait duré plusieurs semaines, durement réprimé d'abord, puis avait abouti à la destitution du président ukrainien de l'époque, pro-russe Viktor Yanukovych. Suite à cela, la Russie avait déployé ses troupes en Crimée et organisé en toute hâte un référendum d'autodétermination qui avait abouti à l'annexion de la péninsule de Crimée au territoire russe. À l'époque, donc, Vladimir Poutine avait déjà agité la menace nucléaire pour dissuader les Occidentaux de contrarier ses plans. Et il procède à nouveau de la sorte aujourd'hui pour l'annexion des territoires de Zaporijjia, Kherson ou encore Lugansk, avec des référendums suivis d'annexions totalement non conformes au droit international. Mais au-delà d'une menace pour couvrir ce processus d'annexion, Vladimir Poutine pourrait-il un moment aller plus loin ? Utiliser des armes nucléaires sur le sol ukrainien pour reprendre l'avantage dans une guerre où ses troupes sont en bien mauvaise posture ?
Évidemment, personne ne souhaite que Vladimir Poutine aille jusque-là, mais personne ne peut dire non plus qu'il est dans la tête de Vladimir Poutine. Donc, c'est un personnage difficile à lire pour l'Occident et certainement dans une grande partie du monde parce que il est au pouvoir depuis 20 ans et que depuis 20 ans, on s'est un peu bercé d'illusions sur ce personnage qui a montré quand même sa férocité d'entrée de jeu. Je tiens à rappeler que dès qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas secouru les marins du Kursk, il a ensuite mené une seconde guerre en Tchétchénie absolument monstrueuse, hein, où il a rasé Grozny, ensuite il l'a prouvé en Syrie en bombardant des hôpitaux et des écoles, tout ça. On a pensé qu'on pouvait toujours composer avec ce dirigeant. Aujourd'hui, on est arrivé, à mon avis, au bout du bout. C'est un dirigeant dangereux et qui l'a prouvé, et qui le prouve encore tous les jours.
Et dans le déclenchement même de cette guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a surpris une bonne partie du monde qui ne voulait pas y croire. Comme une bonne partie du monde a sans doute aussi été surprise de la relative faiblesse de l'armée russe sur ce terrain ukrainien qu'elle espérait pouvoir conquérir très rapidement. Tous ces éléments nous plongent, selon Isabelle Mandreau, en pleine terra incognita, y compris sur l'enjeu nucléaire.
C'est un terrain inconnu pour tout le monde, puisque en fait la seule fois où l'arme nucléaire a été utilisée, c'est en 1945 à Hiroshima et Nagasaki. Donc personne, jusqu'à présent, c'était plutôt un équilibre de terrain. Là, est-ce qu'il essaye de le rompre? Est-ce que c'est du bluff? Personne ne le sait encore. Personne n'a envie de le mesurer, d'ailleurs, non plus. On n'est plus tellement dans la dissuasion nucléaire, puisque cette dissuasion, c'est « si vous m'attaquez, moi je peux répondre par le nucléaire ». On est là dans une guerre d'agression, avec peut-être une utilisation tactique du nucléaire, ce qui est quelque chose d'assez nouveau, en tout cas c'est quelque chose qu'essaye de nous vendre aujourd'hui la Russie dans son discours, c'est-à-dire je peux même utiliser des micro-ogives nucléaires pour arrêter la situation sur le terrain. Ça c'est nouveau, c'est tout à fait nouveau.
Arrêtons-nous alors sur ce point-là en particulier. C'est une expression que vous avez sans doute déjà entendue ces dernières semaines, l'idée que Vladimir Poutine et la Russie pourraient, dans le conflit, utiliser des armes nucléaires dites « tactiques ». Alors c'est quoi des armes nucléaires tactiques par opposition aux armes nucléaires dites « stratégiques » ? Pour y voir clair, j'ai pris rendez-vous avec un spécialiste de l'armement. Monsieur Rotin, bonjour.
Je vous en prie, rentrez.
C'est donc bien ici,
absolument. Oui,
il s'appelle Joséphan Rotin, docteur en sciences politiques et rédacteur en chef du magazine Défense et Sécurité Internationale.
On va faire un peu d'exercice pour grimper au deuxième.
Alors, qu'entend-on donc par armes nucléaires tactiques ?
Alors, il y a pas mal de débats pour savoir si finalement il existe encore des armes nucléaires tactiques et stratégiques, qui sont les deux grandes catégories, simplement parce qu'une fois que vous passez ce qu'on appelle le firebreak, vous êtes de toute manière dans du nucléaire, la dénomination compte peu, face finalement à la symbolique politique.
Bon, ça commence bien. Pas si simple donc, si je comprends bien, de faire la différence entre armes nucléaires tactiques et stratégiques, puisque ce sont d'abord et avant tout des armes nucléaires avec toute la charge que cela suppose. Mais essayons quand même de comprendre la distinction. L'idée de base, c'est que les armes nucléaires dites stratégiques, elles constituent le socle de la dissuasion nucléaire, tellement puissante et tellement destructrice qu'elles doivent dissuader tout État d'attaquer une puissance nucléaire, au risque sinon de subir en retour une réaction dévastatrice. L'arme nucléaire tactique, quant à elle, elle est pensée, en tout cas en théorie, pour pouvoir servir sur le champ de bataille et prendre ou reprendre l'avantage dans un conflit.
L'armement nucléaire tactique va chercher à avoir des effets militaires, tactiques, qui visent en fait à détruire des capacités militaires adverses. Bases militaires, dépôts, concentrations de troupes, etc. Avec des puissances qui sont un peu moindres que celles qu'on va retrouver dans les armements nucléaires stratégiques. Et bon, ces puissances en fait se comptent en kilotonnes, donc en milliers de tonnes d'équivalent TNT. À titre de comparaison, Hiroshima, Nagasaki, on était dans la classe des 14-15 kilotonnes. Aujourd'hui, les armes nucléaires tactiques, elles vont de quelques kilotonnes, 2-3 kilotonnes jusqu'à peut-être une centaine, en fonction des types d'armements. Là où les armements stratégiques, finalement, sont plutôt dans la classe des centaines, si vous voulez, de kilotonnes.
Ok. Mais ça veut quand même dire que les armes tactiques les plus puissantes sont aujourd'hui potentiellement 6 à 8 fois plus destructrices qu'une bombe comme celle larguée en 45 sur Hiroshima, qui a fait entre 70 et 250 000 morts, selon les bilans. Et d'ailleurs, depuis Hiroshima et Nagasaki, aucune arme nucléaire, ni tactique ni stratégique, n'a été utilisée sur les champs de bataille.
De facto, depuis la capitulation du Japon et depuis les frappes d'Hiroshima et Nagasaki, on ne l'a plus vu. L'hypothèse a été posée à plusieurs reprises par rapport à la question de la Corée notamment, l'invasion chinoise en Corée pendant la guerre de Corée. La question a été posée par MacArthur et le président américain en fait a carrément démis MacArthur de ses fonctions, en disant il y a des choses auxquelles finalement il ne faut pas toucher. Par contre, l'armement nucléaire a été utilisé tout au long de la guerre froide, mais dans une vision finalement qui est une vision déclaratoire. On procède à des essais nucléaires pour montrer ce qu'on est capable de faire, ce que l'on a finalement. Est-ce que l'on maîtrise le nucléaire, le thermonucléaire, tel type de missile, etc. Il a été utilisé discursivement dans des déclarations politiques diverses et variées, par menaces, par sous-entendus. Et donc, in fine, il a produit un certain nombre d'effets, si vous voulez, mais sans avoir à être utilisé concrètement.
On comprend dès lors mieux la remarque initiale de Joseph Henrotin. L'utilisation d'une arme nucléaire tactique serait tellement lourde de conséquences, ne serait-ce que parce qu'elle viendrait en quelque sorte briser le tabou nucléaire qui vit depuis 1945, que la distinction entre tactique et stratégique n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais revenons alors à notre question initiale. Est-ce que dans ce cas-ci, Vladimir Poutine pourrait être tenté de briser ce tabou nucléaire, tellement coincé sur le terrain, contraint à reculer par des troupes ukrainiennes solidement armées par l'Occident, pourrait-il user de l'arme nucléaire pour reprendre l'avantage ? Pour Joseph Henrotin, on ne peut l'exclure, et cela nous place à un point de tension nucléaire tel qu'on ne l'a plus connu depuis 60 ans.
Alors oui, je pense qu'on n'a jamais vu une crise nucléaire aussi importante depuis la crise des missiles de Cuba, grosso modo. Bon. La situation est d'autant plus délicate que l'armée russe, actuellement, est littéralement en train de se faire éviscérer. Hein, on a plus de 50% de pertes en termes de chars. On a bien vu que les dernières progressions territoriales russes se sont produites finalement au début du mois de juillet. Hein, les forces russes, à ce moment-là, ont atteint leur point culminant. Et entre-temps, les Ukrainiens ont commencé à frapper les arrières russes et puis ensuite à reprendre du terrain de façon rapide et massive, avec derrière ça évidemment une attrition du potentiel militaire russe. De ce point de vue-là, la mobilisation telle qu'elle a été engagée, et telle qu'elle a été très mal engagée par ailleurs, montre une certaine forme de fébrilité, et cette fébrilité finalement fait poser la question du nucléaire.
Est-ce à dire du coup que pour compenser la faiblesse de l'armée russe avec ses armes conventionnelles, pour éviter une défaite humiliante, Vladimir Poutine et son état-major pourraient recourir aux fameuses armes nucléaires tactiques ?
Alors, là où il y a finalement une ambiguïté russe, c'est qu'il n'y a pas de doctrine russe spécifique en matière d'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Donc il y a une doctrine pour les armes stratégiques, hein, dont on a parlé là tout à l'heure, mais finalement, l'arme nucléaire tactique est laissée à discrétion. Alors on peut se dire que dans un certain nombre de cas de figure, là où un front risquerait d'être rompu, etc., il pourrait y avoir une tentation d'utiliser du nucléaire comme facteur de compensation, comme une artillerie, si vous voulez, qui remettrait un petit peu les choses à plat et permettrait ensuite à la Russie de reprendre une avance ou ce genre de choses.
À écouter cela, on se dit que le risque de l'utilisation d'armes nucléaires est bien réel, et peut-être même plus concret qu'il ne l'a jamais été. Mais heureusement, il y a aussi toute une série de raisons qui devraient normalement dissuader Vladimir Poutine d'utiliser l'arme atomique. D'abord, parce que si la Russie utilisait le nucléaire en Ukraine, cela voudrait dire que ses propres soldats devraient potentiellement combattre en zone contaminée. Et ça, l'armée russe n'y est pas, n'y est plus préparée.
Il n'y a plus véritablement d'entraînement des forces russes à des opérations en milieu contaminé déjà depuis longtemps. Cela ne s'improvise pas, il y a des questions d'ordre matériel, etc. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, la Russie a des problèmes logistiques énormes, donc amener des tenues de protection, par exemple, sera extrêmement difficile. Si vous voulez conquérir un pays, finalement, c'est quand même beaucoup plus simple de conquérir un pays qui soit sain, plutôt que de conquérir un pays qui soit contaminé. Par ailleurs, dès lors que vous utilisez un armement nucléaire, alors en fonction de l'altitude d'explosion, en fonction du type même de tête nucléaire qui a été utilisée, vous allez vous retrouver en fait avec ce qu'on appelle un fallout, hein, des retombées radioactives, et ces retombées en fait vont s'étager parfois sur des dizaines, des centaines de kilomètres. Et donc le seul usage finalement d'armement nucléaire en Ukraine produirait ces retombées qui, en fonction du sens de rotation de la Terre tout simplement, et des vents dominants, contamineraient d'abord et avant tout les forces russes elles-mêmes. Voilà, et donc elles n'iraient pas vers l'ouest, si vous voulez, elles auraient tendance à partir plutôt vers l'est, le sud-est, la Turquie, etc.
Autre élément que Vladimir Poutine et son état-major doivent sans doute considérer, l'intérêt stratégico-militaire de telles frappes nucléaires qui n'anéantiraient pas forcément la résistance des Ukrainiens.
parce que la structure même des actions ukrainiennes prend en compte la possibilité d'une artillerie nucléaire, si vous voulez, visant les unités ukrainiennes. Par ailleurs, le général Zaluzny, qui est le chef d'état-major des armées ukrainiennes, a sorti il n'y a pas très longtemps un article où voilà, il revient sur des notions de stratégie théorique et pour les appliquer en fait à l'affaire ukrainienne et en prenant en compte le fait nucléaire. Et ce qu'il dit, c'est ben voilà, même si les Russes effectuent un ou des tirs nucléaires tactiques, fondamentalement, nous continuerons le combat. Nous sommes équipés pour. Et finalement, ce qu'il ne dit pas, mais ce que l'on voit sur les cartes, c'est que la structure des actions ukrainiennes ne laisse pas prise, si vous voulez, à de tels tirs nucléaires. Donc, ce ne serait pas nécessairement un calcul gagnant pour la Russie. Et puis, par ailleurs, atomiser dans un scénario apocalyptique, atomiser les grandes villes ukrainiennes, très bien, mais pourquoi ? Dans quelle mesure, finalement, est-ce que cela produirait un avantage politique ou politico-stratégique pour la Russie ? Dans quelle mesure, finalement, un certain nombre d'autres États nucléaires, la Chine en l'occurrence, voilà, qui nourrit un certain nombre d'appétits, on va dire, pour les parties les plus orientales de la Russie, comment un État comme la Chine le prendrait-il ? Etc., etc. Donc, on passerait là un cap dans l'infamie, si vous voulez, qui serait tel que la Russie serait mise au banc des nations durant des années, qui serait probablement tel que, finalement, l'armée russe elle-même ne serait pas très d'accord, finalement, avec ce genre d'application. Les officiers russes des RVSN, donc les forces de missiles stratégiques, ont été élevés, si vous voulez, dans une logique d'utilisation du nucléaire dans une optique donc défensive, dans une optique dissuasive. Et donc le fait de commencer à frapper systématiquement un pays pour l'anéantir, pays qui n'est lui-même pas doté de l'armement nucléaire, finalement ne répond à aucun de leurs paramètres, si vous voulez. Donc là, il y aurait